Journal du soir sur Europe 1, 22h30, 23h.
Jean-Michel Duez.
Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Jean-Charles. Les auteurs de la fusillade de ce matin dans le Val-de-Marne sont toujours en fuite quant à la policière municipale grièvement touchée. Elle a finalement succombé ce soir à ses blessures. Nous reviendrons dans un instant sur ce drame. Environ 100 millions d'euros, estimation des 5 tableaux de maîtres volés au musée d'art moderne de la ville de Paris. Il y a eu des dysfonctionnements dans le système de sécurité. L'alarme ne s'est pas déclenchée. 3 salariés licenciés après une discussion sur Facebook dans laquelle ils critiquaient leur entreprise. Licenciement pour faute grave. Vous écouterez le témoignage de l'un d'entre eux. Et l'invité d'Europe 1 sera Christophe Noël, avocat spécialiste du droit du travail, avec cette question. Sur Facebook, est-on dans la sphère privée ou publique ? L'actualité, c'est aussi la volonté de Nicolas Sarkozy d'inscrire la réduction des déficits dans la Constitution, mesure déjà dénoncée par la gauche. Les aveux du champion cycliste Floyd Landis, qui reconnaît s'être dopé pendant toute sa carrière et qui met en cause Lance Armstrong. La nouvelle journée de baisse des places financières, Paris a perdu 2,25%, forte baisse ce soir de Wall Street, moins 4% pour le Nasdaq et moins 3,6% pour le Dow Jones. Et puis le temps pour demain, soleil sur une grande partie de la France, des nuages de l'Alsace jusqu'aux Alpes et des températures en hausse pour tout le monde.
Europe 1,
le journal du soir.
Tout d'abord donc la sanglante course-poursuite de ce matin dans le Val-de-Marne qui a fait un mort, la policière municipale de Villiers-sur-Marne qui ce soir a succombé à ses blessures. 7 autres personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Quant aux malfaiteurs qui ont ouvert le feu, eh bien ils sont en fuite toujours. Le récit de Mathieu Charrier.
Tout commence peu après 9h ce matin à Créteil. Une camionnette blanche refuse de se soumettre à un contrôle routier. À son bord, 4 à 5 hommes. Le véhicule prend la fuite, s'engage sur l'autoroute A4 à toute vitesse. Les malfaiteurs continuent de tirer sur les policiers au milieu de la circulation. Une automobiliste est atteinte au poumon et un conducteur de poids lourd au pied. Ce conducteur, c'est Gérard.
La police nous a ralenti, puis là, il y a une camionnette qui m'a accroché le camion, puis ils ont tiré. Comme nous, on était devant, on a pris des impacts. 4 balles qui sont rentrées dans le camion, une qui m'a effleuré le pied. J'ai mis le frein à main et j'ai sauté du camion. Il n'y a rien à faire quand tu veux une mitraillette.
Et la fourgonnette reprend sa course folle. Quelques centaines de mètres plus loin, elle sort de l'autoroute à Villiers-sur-Marne et heurte un autre véhicule, un Renault Espace. Des policiers municipaux sont là par hasard. Ils s'approchent pour intervenir sur ce qu'ils pensent être un banal accident de la circulation. Et là, l'un des malfaiteurs tire en rafale sur la voiture de police avec une Kalachnikov, une 30aine de balles, dont 14 sur le pare-brise avant. Une policière de 27 ans, mère d'un petit bébé, touchée à la tête et au thorax. Son collègue est lui touché au bras. Les malfaiteurs incendient alors leur camionnette et s'enfuient dans une 206 break. Jean-Claude arrive à ce moment-là sur les lieux.
J'ai vu 2 véhicules en feu et un peu plus loin, couché dans l'herbe, il y avait une femme policier en sang. Au moins 2 autres personnes qui étaient au sol, des blessés allongés dans l'herbe. Voilà.
Et les malfaiteurs reprennent la fuite à bord d'un nouveau véhicule pour se rendre dans un garage Mercedes de Champs-sur-Marne. Là, ils échangent leur voiture contre un modèle plus puissant et démarrent en trombe. C'est à ce moment-là que les forces de l'ordre perdent leurs traces.
Mathieu Charrier, l'incroyable vol maintenant au musée d'art moderne de la ville de Paris. 5 tableaux volés la nuit dernière, un Picasso, un Matisse, un Braque, un Léger et un Modigliani d'une valeur totale d'environ 100 millions d'euros. Le vol a été découvert tôt ce matin et le ou les voleurs ont visiblement agi avec beaucoup de facilité lors de triche.
C'est en faisant leur ronde ce matin vers 7h que des employés du musée découvrent qu'une vitre à l'arrière a été brisée, que le cadenas d'une grille a été cassé. La caméra de vidéosurveillance a montré une personne s'introduisant dans le musée, mais il pourrait y avoir plusieurs voleurs. Ils ont détaché les cadres des tableaux et sont partis seulement avec les toiles, sans que la moindre alarme ne se déclenche dans ce grand musée en plein Paris, dans le palais de Tokyo. Christophe Girard, adjoint au maire de Paris, explique que le système de sécurité n'a pas fonctionné.
Il y a ce que l'on appelle des rondes, il y a un PC de sécurité, il y a 3 personnes en permanence dans le musée, qui donc étaient là et le système a donc été déjoué de toute évidence puisque les 3 personnes présentes n'ont rien vu et la défaillance qu'a connu le système de sécurité sera déterminé par l'enquête de police.
Une fois le vol signalé, les photos des tableaux ont été diffusées sur les bases de données policières du monde entier. Depuis ce matin, la police judiciaire a commencé à chercher d'éventuelles empreintes sur les cadres des tableaux volés et les enquêteurs continuent d'analyser chaque image des bandes de vidéosurveillance.
Lors d'Autriche, une affaire d'un nouveau genre liée à Facebook, 3 salariés d'une entreprise de Boulogne-Billancourt licenciés pour faute grave. La direction les accuse de dénigrement de l'entreprise et d'incitation à la rébellion. Tout cela après un échange sur Facebook. Fabien Cazot.
Tout part d'une blague entre collègues amis sur Facebook. L'un d'eux, en délicatesse avec sa hiérarchie, publie une petite phrase « J'intègre le club des néfastes ». Ça fait référence à un qualificatif employé, disent ses collègues, par la DRH pour dénigrer quelques salariés jugés pas assez motivés. Julie fait partie de ce petit groupe. Elle répond à son collègue, ironiquement « Bienvenue au club ». Seulement voilà, un ami de son ami qu'elle ne connaît pas mais qui travaille dans la même société la dénonce. Elle est licenciée pour faute grave. Un an et demi après les faits, elle n'en revient toujours pas.
Je vois pas ce qu'il y a de dénigrant dedans. Je vois pas en quoi j'ai incité à la rébellion contre ma hiérarchie. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans le même cas. Donc je suis au chômage et voilà, j'ai envie de tourner la page.
C'était comme une blague.
Exactement, c'était une blague. C'était ironique entre nous. Voilà, on discutait, on rigolait et puis bon, on a été licencié à cause de ça.
Aujourd'hui, Julie conteste son licenciement pour faute grave. Elle poursuit son ancien employeur, la société Alten, pour obtenir des dommages et intérêts. Mais les prud'hommes ne sont pas arrivés pour le moment à se mettre d'accord sur son cas.
Fabien Cazot.
Europe 1.
Jean-Michel Duez.
L'interview.
Bonsoir Christophe Noël.
Bonsoir.
Vous êtes avocat spécialisé en droit du travail. Bien sûr, la question avec cette affaire est de savoir si ces échanges sur Facebook sont dans la sphère privée ou publique. Et là, apparemment, les avis sont partagés.
On peut considérer en théorie au départ que Facebook, ça relève de la sphère privée. Je m'adresse à des correspondants que je connais, à des amis en l'occurrence. Mais que l'utilisation que vont faire les gens qui utilisent Facebook va faire que ça va plus être de la sphère privée, mais de la sphère publique, parce qu'effectivement, on ne maîtrise pas la diffusion des informations qu'on diffuse. Et les amis sur les réseaux communautaires font que ça peut facilement retomber dans la sphère publique. L'employeur peut en avoir connaissance, c'est un petit peu ce qui s'est passé récemment. Vous avez, par exemple, donné un avis sur un employeur qui lui plaît pas, ou critiqué, ou des choses comme ça. Donc, effectivement, il faut être extrêmement prudent. Dire que ça relève de la sphère privée, c'est un peu rapide et surtout très théorique.
Alors, il faut être prudent, mais il y a quand même un droit de critique de la part du salarié vis-à-vis de son
Toujours,
employeur.
Toujours, bien sûr. Ouais. Sur Facebook comme ailleurs, la liberté d'expression en France, c'est un principe majeur et ça personne ne le conteste.
Mais elle s'arrête où aussi, cette liberté?
Alors, je dirais que la liberté d'expression, pour Facebook, c'est pas tant la liberté d'expression que surtout la protection de la vie privée qui est en jeu. C'est-à-dire qu'il y a deux droits qui s'affrontent. D'un côté, le droit du salarié de voir protéger sa vie privée sur tout ce qu'il dit ou sur toutes les informations qu'il diffuse sur le réseau social, comme Facebook. Et puis, de l'autre côté, le droit de l'employeur d'éventuellement de sanctionner les propos ou les faits dont il a connaissance par le biais des réseaux sociaux. Alors, le principe, c'est que l'employeur ne peut pas sanctionner un salarié pour des faits qui relèvent de sa vie privée. Et il y a une exception, mais qui est limitée, hein, faut quand même pas oublier le principe, mais il y a une exception qui est que l'employeur a le droit de sanctionner le salarié dès lors que les faits ou les propos causent un trouble manifeste pour l'entreprise compte tenu des fonctions exercées par le salarié. Mais le principe quand même majeur qu'il faut retenir, c'est que ça relève quand même de la protection de la vie privée. Qu'on soit dans l'entreprise ou pas, la vie privée, c'est un droit qui est inviolable pour le salarié.
Mais là, une nouvelle fois, dans cette histoire, on ne sait pas si on est dans la protection de la vie privée.
Bah, à mon avis, on l'est, mais est-ce qu'on rentre dans la limite posée par la jurisprudence, à savoir est-ce que pour autant, on n'a pas, avec nos propos, on n'a pas porté atteinte, on n'a pas causé un trouble manifeste pour l'entreprise. Causer un trouble manifeste pour l'entreprise, c'est quand même quelque chose de fort, donc c'est pas simplement une critique, en l'occurrence, pour qu'il serait sanctionnable. Il faut aller au-delà, il faut vraiment qu'on ait porté atteinte à l'image de l'entreprise, qu'on ait causé un trouble manifeste, nous dit la
société. On peut s'attendre à d'autres affaires de ce type?
Je pense que ça va ressortir parce que on a tous un usage pour plus ou moins très permissif avec Facebook. On se rend pas tellement compte, surtout les jeunes, du danger que ça, ce potentiel que ça a. Donc oui, effectivement, ça va ressortir.
Donc le conseil, c'est quoi? C'est d'être prudent avant d'écrire sur Facebook.
Prudent, oui, mais pour autant, garder à l'esprit que la liberté d'expression sur Facebook comme ailleurs, on peut l'exercer sans peur. À partir du moment où on n'abuse pas de cette liberté d'expression, il n'y a aucune raison d'être sanctionné.
Merci Christophe Noël.
Je vous en prie.
22h39, nouvelle mesure annoncée aujourd'hui dans la lutte contre les déficits. Les collectivités locales et la sécurité sociale vont-elles aussi être mise à contribution pour tenter de redresser les finances? Et surtout, le fait nouveau, c'est la volonté de Nicolas Sarkozy d'inscrire dans la Constitution la réduction des déficits. Écoutez François Baroin, le ministre du Budget.
Le président de la République a souhaité la mise en œuvre d'une révision constitutionnelle qui porterait sur trois engagements. Le premier, c'est de réserver à la loi de finances, examinée chaque année par le Parlement, l'exclusivité des dépenses fiscales. Il n'y aura plus de texte au fur et à mesure des mois sur tel ou tel sujet qui porterait sur des dépenses fiscales. Ce sont les parlementaires, au moment de l'examen du budget de la nation, qui examineront toutes les dépenses fiscales. C'est un moyen pour nous de contenir et d'atteindre l'objectif de maîtrise de ces dépenses fiscales. Deuxième engagement, que le Parlement soit appelé à voter sur les engagements pris par la France vis-à-vis de nos partenaires européens. Et troisième engagement, inscrire en début de législature dans la Constitution l'obligation pour un gouvernement sorti des urnes de fixer la tendance, la ligne, la discipline budgétaire à l'échelle de la législature.
François Baroin au micro Europe 1 d'Olivier Samin. Un changement constitutionnel pour lutter contre les déficits, idée d'ores et déjà rejetée par le Parti Socialiste à l'image de Michel Sapin, député de l'Indre.
L'idée de lancer un débat constitutionnel à propos de la situation économique et budgétaire de la France est une idée totalement surréaliste. C'est une forme de conduite de fuite. Comme le président de la République n'a pas pris sur les faits, comme il est le responsable d'un déficit que jamais la France n'a connu à ce niveau, il se réfugie dans un débat théorique. Il se réfugie dans les mots, et en l'occurrence dans les mots constitutionnels. Ce qui a un intérêt pour les Français, c'est que les réalités, que les choses changent, que les déficits diminuent, mais que l'activité économique elle-même soit soutenue pour que le chômage diminue.
Michel Sapin, joint par David Doucan. Nouvelle interpellation de militants présumés de l'ETA. Trois personnes interpellées ce matin à Bayonne, et pas n'importe lesquels. Le plus haut dirigeant de l'organisation indépendantiste basque est aussi l'un des membres présumés du commando qui avait tué un policier à Damary-les-Lys en Seine-et-Marne en mars dernier. À Bayonne, l'envoyé spécial d'Europe 1, Stéphane Place.
Une rue bouclée, une dizaine de caméras braquées sur cet immeuble de trois étages. Toute la journée dans ce quartier habituellement tranquille de Bayonne, les policiers de la lutte antiterroriste ont procédé à un relevé minutieux d'indices dans cet appartement où ils ont arrêté avec leurs collègues du RAID trois personnes, une femme et deux hommes. Le premier, Atta, était jusqu'à ce matin le chef présumé de l'appareil militaire de l'ETA. Son plus haut dirigeant a même affirmé cet après-midi le ministre de l'Intérieur espagnol. Interpellé également dans ce duplex, celui que l'on présente comme le lieutenant d'Atta, son adjoint, soupçonné d'être impliqué dans la fusillade en mars dernier, qui a coûté la vie à un brigadier de Damary-les-Lys en Seine-et-Marne. Croisant les enquêteurs de la PJ, le visage dissimulé par leur cagoule, ici les voisins, comme David, ne cachaient pas leur surprise en apprenant que ces étarras présumés vivaient à côté de chez eux.
Le couple, à peu près, je vois qui c'est. Maintenant, j'ai pas eu contact avec eux ni rien. Si c'est eux que je pense, bon, ils sont normaux, quoi, très polis, pas de soucis. Je vois tout ce monde de devant la maison, les gens cagoulés et tout, et c'est vrai que ça fait drôle, quoi.
Trois armes de poing et du matériel informatique ont été saisies par les policiers au cours de cette longue perquisition. Bayonne, Stéphane Place, Europe 1.
L'apéro géant du Champ de Mars prévu dimanche prochain à Paris est interdit. C'est une annonce de la préfecture de police qui rappelle que toute consommation d'alcool est en permanence interdite sur ce Champ de Mars, mais la préfecture se dit prête à examiner et à sécuriser un autre projet d'apéro dans un lieu adapté. Quant à dimanche soir, eh bien, tous les moyens nécessaires seront mobilisés sur le Champ de Mars pour que l'apéro géant, justement, ne se fasse pas. Le dopage dans le cyclisme, avec cette révélation fracassante de Floyd Landis, il a reconnu aujourd'hui s'être dopé de façon systématique pendant sa carrière. Il avait d'ailleurs été déchu de sa victoire dans le Tour 2006 après un contrôle positif. Récit Laurent Jaoui.
C'est le grand déballage. Landis, jusqu'ici, avait toujours nié, et ses aveux, auxquels seuls les derniers irréductibles ne croiront pas, en disent long sur les pratiques en cours au début des années 2000. En gros, l'Américain avoue s'être dopé tout au long de sa carrière. Un coming out largement répandu. Toutes les instances internationales ont reçu un mail détaillé. EPO, hormones de croissance, transfusion sanguine, insuline. On a l'impression de lire le rapport d'un expert pharmaceutique. « Je veux laver ma conscience », dit ce garçon élevé dans une communauté ménonite, faisant du vélo en cachette de ses parents qui vivaient dans le dénuement exigé par ce mouvement religieux. Les amateurs de cyclisme ont gardé en mémoire cette image étonnante, la montée vers Morzine et cette fulgurante ascension. C'est simple, on croyait voir une mobilette. Plus fou encore, la veille dans l'étape de la Toussuire, le même homme était à l'agonie. Soulager sa conscience et charger celle des autres, Lance Armstrong avant tout. Son leader pendant 3 ans, son maître S-dopage à en croire ses aveux tardifs. Pour rappel, Armstrong est toujours coureur cycliste, il prend même le départ du Tour de France dans 6 semaines.
Laurent Jaoui, et ce soir justement, Lance Armstrong rejette les accusations portées contre lui par Floyd Landis. Le Festival de Cannes, maintenant nous sommes à 3 jours du palmarès. Aujourd'hui, 3 films étaient au programme, dont le dernier Cannes Lodge, en ligne de Cannes, Bruno Kras. Bruno, pour l'heure, pour vous, Cannes 2010 ne sera pas un grand cru.
Écoutez, c'est ce que j'avais cru comprendre quand Thierry Frémaux, il y a 3 semaines, nous a présenté la sélection officielle. Il n'avait trouvé que 16 films en compétition. D'habitude, il nous en propose 22. Bon, depuis, il a rajouté des films, mais je m'étais dit peut-être qu'il a eu du mal à trouver les films. Au début du festival, finalement, on s'est dit les films sont pas mal. On a vu un film chinois, un film coréen, qui était plutôt d'un bon niveau. Mais maintenant qu'on a vu 15 films sur 19 de la sélection, on se dit bof. On a vu, par exemple, hier, un film italien, une petite comédie italienne, mais pas extraordinaire. Le thriller politique américain est un thriller qu'on pourrait voir à la télévision à la place d'une série télé. Et puis le Ken Loach n'est pas un film majeur dans la filmographie de Ken Loach. Donc on se dit que non, c'est pas. Il y a des années comme ça où la valeur du festival de la sélection est moindre. C'est peut-être une année sans.
Mais il y a tout de même 2 films qui pour vous ressortent.
Oui, alors ce qui est agréable, c'est qu'il y a un film français qui ressort et qui vraiment tient la corde. C'est le film sur les moines de Tibérine, des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, qui est un film vraiment qui a été un petit peu miraculeux et qui a bouleversé des festivaliers. Et puis, le Mike Lee, Another Year, qui raconte la vie d'un couple ordinaire dans la campagne anglaise, qui est bouleversant à partir de petits riens de la vie, une année de plus dans la vie de gens ordinaires. Et on se dit que voilà, ces deux films sont là, avec peut-être en outsider Beautiful d'Alejandro Iñárritu, qui est très sombre, mais très fort.
Bruno Kras, en ligne de Cannes. On termine avec Thierry Fréret. Et Thierry, la bonne nouvelle, c'est que le beau temps sera au rendez-vous pour tout le week-end.
Un week-end de Pentecôte estival. Et ça va commencer dès ce vendredi 21 mai, avec en toute région, dans tous les départements, du soleil, peut-être, c'est vrai, dans l'après-midi, quelques cumulus sur les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et le nord des Alpes. Et éventuellement, c'est probable, hein, un orage de chaleur sur les sommets alpins et près de la Méditerranée. Beaucoup moins de vent que depuis le début de la semaine. Bref, une journée très ensoleillée, très agréable. Les températures déjà estivales à Nantes, par exemple. À Nîmes aussi, à Angers, à Cognac, Toulouse, Bordeaux et Montauban, entre 25 et 27 degrés. 24 degrés prévus pour votre vendredi après-midi à Rennes, à La Rochelle, à Marseille, à Toulon, à Perpignan et à Montpellier. Vous aurez 23 degrés à Caen, à Paris, à Tours, à Biarritz et à Bastia. 22 degrés pour Brest, Rouen, Lyon et Grenoble. 21 degrés à Lens autant qu'à Nice. 20 degrés à Cherbourg et à Strasbourg. Et 19 degrés à Besançon.
Thierry Fréret, merci d'écouter Europe 1. Il est 22h47. On se retrouve dans un instant, bien sûr, Top à Wall Street, Top Europe. Et je vous rappelle cette nouvelle journée de forte baisse des places financières. Paris, le CAC 40 a perdu 2,25%. Et surtout ce soir, une très forte baisse de Wall Street, moins 4% pour le Nasdaq, moins 3,6% pour le Dow Jones. Le pétrole est aussi en forte baisse à New York. Il termine aux environs de $68. Il est même descendu à $65 le baril en courte séance. Et on n'oubliera pas, évidemment, juste avant Caroline Dublanche, avant 23h, un extrait de la revue de presse de Nicolas Canteloup. Voilà le programme et à tout de suite.